Alphonse Daudet, Le Nabab, chapitre 20, La baronne Emmerlingue. Tout au bout de la longue voûte sous laquelle se trouvaient les bureaux d'Emmerlingue et fils, noir tunnel que le père Joyeuse avait pendant 10 ans pavoisé et illuminé de ses rêves, un escalier monumental à rampe de fer ouvragée, un escalier du vieux Paris montait vers la gauche au salon de réception de la baronne, prenant jour sur la cour juste au-dessus de la caisse. Si bien que pendant la belle saison, lorsque tout reste ouvert, le tintement des pièces d'or, le fracas des piles d'écus écroulées sur les comptoirs, un peu adouci par les hautes et moelleuses tentures des fenêtres, faisait un accompagnement mercantile aux conversations susurrées par le catholicisme mondain. Cela donnait tout de suite la physionomie de ce salon, non moins étrange que celle qui en faisait les honneurs, mêlant un vague bouquet de sacristie aux agitations de la bourse et à la mondanité la plus raffinée, éléments hétérogènes qui se croisaient, se rencontraient là sans cesse, mais restaient séparés comme la Seine sépare le noble faubourg catholique sous le patronage duquel s'était opérée l'éclatante conversion de la musulmane et les quartiers financiers où Emmerlingue avait sa vie et ses relations. La société levantine, assez nombreuse à Paris, composée en grande partie de juifs allemands, banquiers ou commissionnaires, qui, après avoir fait en Orient des fortunes colossales, trafiquent encore ici pour n'en pas perdre l'habitude, se montrait assidue au jour de la baronne. Les Tunisiens de passage ne manquaient jamais de venir voir la femme du grand banquier en faveur, et le vieux colonel Brahim, le chargé d'affaires du Bey, avec sa bouche flasque et ses yeux éraillés, faisait son somme, tous les samedis, au coin du même divan. « Votre salon sent le roussi, ma petite fille !» disait en riant la vieille princesse de Dion à la nouvelle Marie que maître le Mercier et elle avaient tenue sur les fonds baptismaux. Mais la présence de ces nombreux hérétiques, juifs, musulmans et même renégats, de ces grosses femmes couperosées, fagotées, chargées d'or, de pendeloques, des vrais paquets, n'empêchait pas le faubourg Saint-Germain de visiter, d'entourer, de surveiller la jeune catéchumène, le joujou de ces nobles dames, une poupée bien souple, bien docile, que l'on montrait, que l'on promenait, dont on citait les naïvetés évangéliques, piquantes surtout par le contraste du passé. Peut-être se glissait-il au fond du cœur de ces aimables patronesses l'espoir de rencontrer dans ce monde retour d'Orient quelques nouvelles conversions à faire, l'occasion de remplir encore l'aristocratique chapelle des missions, du spectacle si émouvant d'un de ces baptêmes d'adultes qui vous transportent au premier temps de la foi, là-bas, vers les rives du Jourdain, et sont bientôt suivis de la première communion, du renouvellement, de la confirmation, tous prétextes pour la marraine d'accompagner sa filleule, de guider cette jeune âme, d'assister au transport naïf d'une croyance neuve, et aussi d'arborer des toilettes variées, nuancées à l'éclat ou au sentiment de la cérémonie. Mais il n'arrive pas communément qu'un haut baron financier amène à Paris une esclave arménienne dont il a fait sa légitime épouse. Esclave, c'était cela la tare dans ce passé de femme d'Orient, jadis achetée au bazar d'Andrinople pour le compte de l'empereur du Maroc, puis, à la mort de l'empereur et à la dispersion de son harem, vendue au jeune Bey Hamed. Emmerlingue l'avait épousée à sa sortie de ce nouveau sérail, mais sans pouvoir la faire accepter à Tunis, où aucune femme, mauresque, turque, européenne, ne consentit à traiter une ancienne esclave d'égal à égal, par un préjugé assez semblable à celui qui sépare la créole de la carteronne la mieux déguisée. Il y a là une répugnance invincible que le ménage Emmerlingue retrouva jusque dans Paris, où les colonies étrangères se constituent en petits cercles remplis de susceptibilités et de traditions locales. Yamina passa ainsi 2 ou 3 ans dans une solitude complète dont elle sut bien utiliser toutes les rancœurs et les loisirs, car c'était une femme ambitieuse, d'une volonté, d'un entêtement extraordinaire. Elle apprit à fond la langue française, dit adieu pour toujours à ses vestes brodées et à ses pantalons de soie rose, sut assouplir sa taille et sa démarche aux toilettes européennes, à l'embarras des longues jupes, puis, un soir d'opéra, montra aux Parisiens émerveillés la silhouette encore un peu sauvage, mais fine, élégante et si originale d'une meneuse musulmane décolletée par Léonard. Le sacrifice de la religion suivit de près celui du costume. Depuis longtemps, Madame Emmerlingue avait renoncé à toute pratique mahométane, quand Maître le Mercier, l'intime du ménage et son cicérone à Paris, leur démontra qu'une conversion solennelle de la baronne lui ouvrirait les portes de cette partie du monde parisien dont l'accès semble être devenu de plus en plus difficile à mesure que la société s'est démocratisée tout autour. Le faubourg Saint-Germain, une fois conquis, tout le reste suivrait. Et en effet, lorsqu'après le retentissement du baptême, on sut que les plus grands noms de France ne dédaignaient pas de se rencontrer au samedi de la baronne Emmerlingue, les dames Guggenheim, Fernberg, Caraïs Kaki, Maurice Trott, toutes épouses de Fès millionnaires et célèbres sur les marchés de Tunis, renonçant à leur prévention, sollicitèrent d'être admises chez l'ancienne esclave. Seule, Madame Gensoulet, nouvellement débarquée avec un stock d'idées orientales encombrantes dans son esprit, comme son narguilé, ses œufs d'autruche, tout le bibelot tunisien l'était dans son intérieur, protesta contre ce qu'elle appelait une inconvenance, une lâcheté, et déclara qu'elle ne mettrait jamais les pieds chez ça. Il se fit aussitôt chez les dames Guggenheim, Caraïs Kaki et autres paquets un petit mouvement rétrograde, comme il arrive à Paris chaque fois qu'autour d'une position irrégulière en train de se régulariser, quelques résistances tenaces entraînent des regrets et des défections. On s'était trop avancé pour se retirer, mais on tint à faire mieux sentir le prix de sa bienveillance, le sacrifice de ses préjugés. Et la baronne Marie comprit très bien la nuance, rien que dans le ton protecteur des Levantines, la traitant de « ma chère enfant, ma bonne petite », avec une hauteur un peu méprisante. Dès lors, sa haine contre les Gensoulet ne connut plus de bornes, une haine de sérail compliquée et féroce, avec l'étranglement au bout et la noyade silencieuse, un peu plus difficile à pratiquer à Paris que sur les rives du lac d'El Baïra, mais dont elle préparait déjà le sac solide terminé en garrot. Cet acharnement expliqué et connu, on se figure quelle surprise, quelle agitation dans ce coin de société exotique, quand la nouvelle se répandit que, non seulement la grosse Afchin, comme l'appelaient ces dames, consentait à voir la baronne, mais qu'elle devait lui faire la première visite à son prochain samedi. Pensez que ni les Fernberg, ni les Trott ne voulurent manquer une pareille fête. La baronne, de son côté, fit tout pour donner le plus d'éclat possible à cette réparation solennelle, écrivit, visita, se remua si bien que, malgré la saison déjà très avancée, Madame Gensoulet, en arrivant vers 4 heures à l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré, aurait pu voir devant la haute porte cintrée, à côté de la discrète livrée feuille morte de la princesse de Dion et de beaucoup de blasons authentiques, les armes parlantes, prétentieuses, les roues multicolores d'une foule d'équipages financiers et les grands laquais poudrés des Caraïs Kaki. En haut, dans les salons de réception, même assemblage bizarre et glorieux. C'était un va-et-vient sur les tapis des deux premières pièces désertes, un passage de froissement soyeux, jusqu'au boudoir où la baronne se tenait, partageant ses attentions, ses cajoleries entre les deux camps bien distincts. D'un côté, des toilettes sombres, d'apparence modeste, d'une recherche appréciable seulement aux yeux exercés. De l'autre, un printemps tapageur à couleurs vives, corsages opulents, diamants prodigués, écharpes flottantes, mode d'exportation où l'on sentait comme un regret de climat plus chaud et de vie luxueuse étalée. De grands coups d'éventail par ici, des chuchotements discrets par là. Très peu d'hommes, quelques jeunes gens bien pensants, muets, immobiles, suçant la pomme de leur canne, 2 ou 3 figures de Schumacher, debout derrière le large dos de leurs épouses, parlant la tête basse comme s'ils proposaient des objets de contrebande. Dans un coin, la belle barbe patriarcale et le camail violet d'un évêque orthodoxe d'Arménie. La baronne, pour essayer de rallier ses diversités mondaines, pour garder son salon plein jusqu'à la fameuse entrevue, se déplaçait continuellement, tenait tête à 10 conversations différentes, élevant sa voix harmonieuse et veloutée au diapason gazouillant qui distingue les orientales, enlaçante et câline, l'esprit souple comme la taille, abordant tous les sujets et mêlant ainsi qu'il convient la mode et les sermons de charité, les théâtres et les ventes, la faiseuse et le confesseur. Un grand charme personnel se joignait à cette science acquise de la maîtresse de maison, science visible jusque dans sa mise toute noire et très simple, qui faisait ressortir sa pâleur de cloître, ses yeux de houri, ses cheveux brillants et nattés, séparés sur un front étroit et pur, un front dont la bouche trop mince accentuait le mystère, fermant aux curieux tout le passé varié, et déjà si rempli, de cette ancienne Cadine qui n'avait pas d'âge, ignorait elle-même la date de sa naissance, ne se souvenait pas d'avoir été enfant. Évidemment, si la puissance absolue du mal, très rare chez les femmes, que leur nature physique impressionnable livre à tant de courants divers, pouvait tenir dans une âme, c'était bien dans celle de cette esclave faite aux concessions et aux bassesses, révoltée, mais patiente et maîtresse d'elle-même comme toutes celles que l'habitude d'un voile abaissé sur les yeux a accoutumée à mentir sans danger ni scrupule. En ce moment, personne n'aurait pu se douter de l'angoisse qui l'agitait, à la voir agenouillée devant la princesse, vieille bonne femme sans façon, de qui la Fernberg disait tout le temps « Si c'est une princesse, ça !»« Oh, je vous en prie, ma marraine, ne vous en allez pas encore !» Elle l'enveloppait de toutes sortes de câlineries, de grâces, de petites mines, sans lui avouer, bien entendu, qu'elle tenait à la garder jusqu'à l'arrivée de Jean Soulet pour la faire servir à son triomphe. « C'est que, disait la bonne dame en montrant le majestueux Arménien, silencieux et grave, son chapeau à gland sur les genoux, « j'ai à conduire ce pauvre monseigneur au grand Saint-Christophe pour acheter des médailles. Il ne s'en tirerait pas sans moi. » « Si, si, je veux, il faut, encore quelques minutes !» Et la baronne jetait un regard furtif vers l'antique et somptueux cartel accroché dans un angle du salon. Déjà 5 heures, et la grosse Afchin n'arrivait pas. Les levantines commençaient à rire derrière leurs éventails. Heureusement, on venait de servir du thé, des vins d'Espagne, une foule de pâtisseries turques délicieuses qu'on ne trouvait que là et dont les recettes rapportées par la Cadine se conservent dans les harems comme certains secrets de confiserie raffinée dans nos couvents. Cela fit une diversion. Le gros Emmerlingue, qui, le samedi, sortait de temps en temps de son bureau pour venir saluer ses dames, buvait un verre de madère près de la petite table de service en causant avec Maurice Trott, l'ancien baigneur de Saïd Pacha, quand sa femme s'approcha de lui, toujours douce et paisible. Il savait quelle colère devait recouvrir ce calme impénétrable et lui demanda tout bas, timidement, « Personne ? Personne ! Vous voyez à quel affront vous m'exposez !» Elle souriait, les yeux à demi baissés, en lui enlevant du bout de l'ongle une miette de gâteau restée dans ses longs favoris noirs. Mais ses petites narines transparentes frémissaient avec une éloquence terrible. « Oh, elle viendrait !» disait le banquier, la bouche pleine. « Je suis sûre qu'elle viendra !» Un frôlement d'étoffe, de traîne déployée dans la pièce à côté, fit se retourner vivement la baronne. À la grande joie du coin des paquets qui surveillaient tout, ce n'était pas celle qu'on attendait. Elle ne ressemblait guère à Mademoiselle Afchin, cette grande blonde élégante, aux traits fatigués, à la toilette irréprochable, digne en tout de porter un nom aussi célèbre que celui du docteur Jenkins. Depuis 2 ou 3 mois, la belle Madame Jenkins avait beaucoup changé, beaucoup vieilli. Il y a comme cela dans la vie de la femme restée longtemps jeune, une période où les années qui ont passé par-dessus sa tête sans l'effleurer d'une ride s'inscrivent brutalement, toutes ensemble, en marques ineffaçables. On ne dit plus en la voyant « qu'elle est belle », mais « elle a dû être bien belle ». Et cette cruelle façon de parler au passé, de rejeter dans le lointain de ce qui hier était un fait visible, constitue un commencement de vieillesse et de retraite, un déplacement de tous les triomphes en souvenir. Était-ce la déception de voir arriver la femme du docteur à la place de Madame Jean Soulet, ou le discrédit que la mort du duc de Morat avait jeté sur le médecin à la mode devait-il rejaillir sur celle qui portait son nom? Il y avait un peu de ces deux causes, et peut-être d'une autre, dans le froid accueil que la baronne fit à Madame Jenkins. Un bonjour léger du bout des lèvres, quelques paroles à la hâte, et elle retourna vers le noble bataillon qui grignotait à belles dents. Le salon s'était animé sous l'action des vins d'Espagne. On ne chuchotait plus, on causait. Les lampes apportées donnaient un nouvel éclat à la réunion, mais annonçaient qu'elle était bien près de finir. Quelques personnes désintéressées du grand événement s'étant déjà dirigées vers la porte. Et les gens Soulet n'arrivaient pas. Tout à coup, une marche robuste, pressée. Le nabab parut, tout seul, sanglé dans sa redingote noire, correctement cravatée et gantée, mais la figure bouleversée, l'œil hagard, frémissant encore de la scène terrible dont il sortait. Elle n'avait pas voulu venir. Le matin, il avait prévenu les femmes de chambre d'apprêter madame pour 3 heures, ainsi qu'il faisait chaque fois qu'il emmenait la Levantine avec lui, qu'il trouvait nécessaire de déplacer cette indolente personne qui, ne pouvant même accepter une responsabilité quelconque, laissait les autres penser, décider, agir pour elle, du reste allant volontiers où l'on voulait, une fois partie. Et c'est sur cette facilité qu'il comptait pour l'entraîner chez Emmerling. Mais lorsqu'après le déjeuner, Jean Soulet, habillé, superbe, suant pour entrer dans ses gants, fit demander si madame serait bientôt prête, on lui répondit que madame ne sortait pas. Le cas était grave, si grave que, laissant là tous les intermédiaires de valets et de servantes, qu'ils se dépêchaient dans leurs entretiens conjugaux, il monta l'escalier 4 à 4 et entra comme un coup de mistral dans les appartements capitonnés de la Levantine. Elle était encore au lit, revêtue de cette grande tunique ouverte en soie de 2 couleurs que les mauresques appellent une djeba, et de leur petit bonnet brodé d'or d'où s'échappait sa belle crinière noire et lourde, tout emmêlée autour de sa face lunaire enflammée par le repas qu'elle venait de finir. Les manches de la djeba relevées laissaient voir 2 bras énormes, déformés, chargés de bracelets, de longues chaînettes errant sur un fouillis de petits miroirs, de chapelets rouges, de boîtes de senteurs, de pipes microscopiques, d'étuis à cigarettes, l'étalage puéril et bimblotier d'une couchette de mauresque à son lever. La chambre, où flottait la fumée opiacée et capiteuse du tabac turc, présentait le même désordre. Des négresses allaient, venaient, desservant lentement le café de leur maîtresse. La gazelle favorite lapait le fond d'une tasse que son museau fin renversait sur le tapis. Tandis qu'assis au pied du lit avec une familiarité touchante, le sombre cabassu lisait à haute voix à madame un drame en vers qu'on allait jouer prochainement chez Cardaillac. La Levantine était stupéfiée par cette lecture, absolument ahurie. « Mon cher, » dit-elle à Jean Soulet dans son épais accent de flamande, « je ne sais pas à quoi songe notre directeur. Je suis en train de lire cette pièce de révolte dont il s'est toqué. Mais c'est crevant, ça n'a jamais été du théâtre. » « Je me moque bien du théâtre, » fit Jean Soulet furieux, malgré tout son respect pour la fille des Afchins. « Comment ? Vous n'êtes pas encore habillée ? On ne vous a donc pas dit que nous sortions ?» On le lui avait dit, mais elle s'était mise à lire cette bête de pièce, et de son air endormi. « Oh, nous sortirons demain. »« Demain ? C'est impossible ! On nous attend aujourd'hui même, une visite très importante. »« Où donc cela ?» Il hésita une seconde, puis « Chez Emmerling. » Elle leva sur lui ses gros yeux, persuadée qu'il voulait rire. Alors il lui raconta sa rencontre avec le baron aux funérailles de Morat et la convention qu'ils avaient faite ensemble. « Allez-y si vous voulez, » dit-elle froidement. « Mais vous me connaissez bien peu si vous croyez que moi, une demoiselle Afchin, je mettrai jamais les pieds chez cette esclave. » Prudemment, Cabassu, voyant la tournure du débat, avait disparu dans une pièce voisine, les 5 cahiers de révolte empilés sous son bras. « Allons, » dit le nabab à sa femme, « je vois bien que vous ne connaissez pas la terrible position où je me trouve. Écoutez alors !» Sans se soucier des filles de chambre ni des négresses, avec cette souveraine indifférence de l'oriental pour la domesticité, il se mit à faire le tableau de sa grande détresse, la fortune saisie là-bas, ici le crédit perdu, toute sa vie en suspens devant l'arrêt de la chambre, l'influence des Emmerling sur l'avocat rapporteur et le sacrifice obligatoire en ce moment de tout amour-propre à des intérêts si puissants. Il parlait avec chaleur, pressé de la convaincre, de l'entraîner, mais elle lui répondit simplement « Je n'irai pas !» comme s'il se fût agi d'une course sans importance, un peu trop longue pour sa fatigue. Lui, tout frémissant, « Voyons, ce n'est pas possible que vous disiez une chose pareille. Songez qu'il y va de ma fortune, de l'avenir de nos enfants, du nom que vous portez. Tout est en jeu pour cette démarche que vous ne pouvez refuser de faire. » Il aurait pu parler ainsi pendant des heures. Il se serait toujours buté à la même obstination fermée, inébranlable. Une demoiselle Afchin ne devait pas visiter une esclave.